leçons de philosophie sur la contemplation prêchées par le père Philippe et le père Gouthière à Rimont, le 21 mai 1998, troisième conférence.
Il y a quelques questions, je ne vais peut-être pas répondre à tout, on va voir. Alors, là, oui, une question importante sur laquelle je vais venir, parce que je comptais en parler maintenant, donc ça va s'éclairer. N'y a-t-il déjà pas trace de la notion de contemplation chez les présocratiques? Je pense à cette phrase que mon prof de philo attribuait à Anaxagore, l'homme est né pour contempler. Bon, je vais y venir tout de suite. Donc, ce qui est délicat chez les présocratiques, c'est que nous ne les connaissons que par les citations qui en sont faites par les auteurs postérieurs. Il reste très peu de fragments, et ils sont toujours, ce sont des fragments qui sont parce qu'ils sont cités dans les œuvres qui viennent après, ce qui pose des quantités de problèmes d'interprétation, parce que, évidemment, les historiens s'attardent à souligner qu'un auteur philosophe ne cite que ce qui va dans le sens de sa propre position. Alors, c'est pour ça qu'il y a des visions différentes de certains. Vous avez parlé de deux grandes recherches, de la philosophie éthique et philosophie première. Or, depuis Kant, qui a limité le savoir pour laisser une place à la croyance, comment donner un fondement légitime à toute recherche métaphysique? Pourriez-vous donner des pistes pour répondre? Justement, il n'y a pas de fondement à la recherche métaphysique. C'est justement, je crois, l'erreur de Kant quand il dit recherche d'une critique ou prolégomène à toute métaphysique future qui voudra se présenter comme science. Alors là, je vais rapidement, parce que c'est des questions qui ne sont pas le sujet de notre session, mais c'est bien de poser vos questions. Il faut toujours poser ces questions en philosophie. Oui, il y a un ordre extrêmement important à voir entre philosophie première, ou si vous voulez métaphysique, et puis ce qu'on appelle la critique en philosophie. Pas au sens de la critique, je critique mon voisin, parce que j'ai critiqué tout à l'heure quelqu'un de l'Institut catholique de Lyon, je précise, parce que pour pas que ça choque qui que ce soit, je ne critique pas une personne, je critique un propos public dans une conférence devant 200 personnes, c'est public. C'est pour ça que je l'ai cité, sinon je ne l'aurais pas dit. Donc philosophie première et critique. Et c'est la critique en philosophie. C'est une réflexion sur notre manière de connaître. Et je prends un petit exemple, ou bien même, je pourrais dire, réflexion sur notre agir. Et je prends un exemple, ce soir, j'arrive à la fin de la journée, j'y tiens, aujourd'hui, j'ai peut-être pas fait tout ce que j'aurais dû. Examen de conscience. C'est de la critique. Et quand je suis en philosophie et dans l'ordre de la connaissance et l'ordre de l'action, j'agis. Je connais ce qui est, je cherche la vérité. Quand je suis en critique, je réfléchis comment je la cherche. Et c'est pour ça que le père Philippe aime bien dire de temps en temps, la critique, c'est le rétroviseur philosophique. Vous comprenez? Si vous conduisez tout le temps le nez dans le rétroviseur, c'est embêtant parce que vous êtes sûr que vous allez dans le mur en face. Vous n'avez pas vu le virage. Donc, il vaut mieux conduire, c'est-à-dire chercher la vérité face à la réalité, et de temps en temps, on jette un coup d'œil sur ce chemin parcouru. Ça, c'est les réflexions critiques. Ça veut donc dire, oui, la critique, elle est toujours seconde. Il y a un ordre. Je fais de la philosophie, c'est connaître ce qui est. Connaître l'homme. Et je vous ai dit tout à l'heure, ça implique, et c'est vrai que là, je crois que ça fait partie d'une santé intellectuelle, ça implique de reconnaître que mon intelligence est capable de connaître la vérité. Je le vis. Je ne mets pas tout le temps en doute ma capacité de connaître la vérité. Mais au fond, le scrupule, Kant est un scrupuleux philosophique. C'est qu'il a peur de penser avant d'avoir pensé. Vous savez, c'est ce que dit Hegel. Et là, il a tout à fait raison. Il y a une critique hegelienne sur Kant qui est tout à fait la juste. Il dit, Kant voudrait savoir penser avant d'avoir pensé, c'est comme ce Gascon qui voulait savoir nager avant d'être dans l'eau. Non, je nage. Il y a un moment, il faut que je me jette à l'eau. Alors, j'ai pu faire des exercices sur une chaise, c'est très bien, mais après, je suis dans l'eau. Évidemment, il y a le maître nageur qui est à côté, qui me surveille, très bien. Mais il y a un moment, je suis dans l'eau, et il faut que je nage, maintenant, il faut que je m'en sorte. Si je commence à dire, comment je nage? Vous coulez à pic. C'est comme si vous dites, je respire. Comment je respire? J'arrive plus à respirer, vous voyez. Le primat de la critique nous empêche d'avancer. Alors, je crois que c'est très important, vous savez, pour une philosophie réaliste, la philosophie est première, la critique est seconde, parce que c'est une partie réflexive sur notre manière de connaître. Le propre de Kant, enfin, ce que Kant met en pleine lumière, il n'est pas le seul, hein, c'est déjà chez Descartes. Mais ce que Kant met en pleine lumière, c'est le primat de la critique sur la philosophie. Je critique d'abord ma manière de penser, et philosopher, c'est appliquer une manière de penser à un objet. Donc c'est le primat de la méthode. Pour ça je dis que c'est déjà chez Descartes. Descartes, dans le discours de la méthode, dit qu'il cherche une méthode philosophique pour l'appliquer à des objets de pensée. Mais c'est un primat de la critique. Alors oui, je ne peux pas faire ça. Pourquoi ? Parce que la critique, c'est critiquer ce que j'ai pensé. Je ne critique pas le réel. Le réel est incritiquable. Il existe. Pour ça, vous voyez que si on commence par la critique, au bout du compte, on aboutit au primat de la négation. Commencer par la critique, c'est commencer par moi, et le réel, c'est ce qui n'est pas moi. Et je veux dire, c'est ça le problème, vous voyez. Ou bien je commence par dire ceci est, et je dis qu'est-ce que c'est. Ça, c'est la démarche philosophique réaliste. Et je peux ensuite réfléchir sur la critique. Comment je peux penser ce qui est ? Parce que je le pense. C'est premier. Tandis que, du point de vue d'une philosophie moderne, je commence par le « je pense » et le « comment je pense ». Puis deuxièmement, je dis « à quoi je l'applique ?» Alors je dis « l'être ». L'être, c'est ce qui n'est pas ma pensée. C'est pour ça que Hegel dit, et là il a tout à fait raison, il dit « le caractère de la modernité, c'est que le jugement sur l'être, c'est un jugement négatif. C'est ce l'être, l'arbre qui est dans la cour, c'est pas ce que je pense, c'est autre chose. » Alors Kant dira, c'est inconnaissable. Descartes dit, j'en ai des idées innées. Hegel dit, je pense comme Dieu, donc tout ce que je pense est réel. Mais c'est ça l'important, vous voyez. Ou bien je dis, ceci est, je cherche à penser ce qui est, puis deuxièmement, comment je pense ce qui est. Je critique ma pensée, pas le réel. Ou bien je commence par ma pensée, oui, mais ça n'a pas de sens. Parce que quand je dis je pense, mais je pense quoi ? C'est ce que Descartes a oublié. Ou plutôt, il n'a pas oublié parce qu'après, il donne la réponse. Je pense quoi ? J'ai des idées innées. Et on le retrouve encore chez Rosmini. Vous voyez, c'est tellement important, ça, de saisir ça. Pour ça, alors, au sens strict, il n'y a pas de fondement légitime à toute recherche métaphysique. Non, il y a le jugement d'existence qui s'impose avec évidence. Et ça, c'est au-delà de toute critique. Le jugement d'existence, ceci est, n'est pas dans la critique. C'est pour ça qu'Aristote souligne qu'on ne peut pas le démontrer. On l'accepte ou on le rejette. Mais si on le rejette, il n'y a plus de philosophie possible. Parce que je pense dans le possible uniquement. C'est le possible. C'est l'idée. C'est pour ça que le jugement d'existence, aujourd'hui on a beaucoup de mal. Alors, oui, on pourrait dire, hein, le travail critique préliminaire, il y en aurait un, ce serait de faire comprendre comment, en fait, tout ce qui ne repose pas sur jugement d'existence n'est pas philosophique. Tout ce qui est de l'ordre du possible, ça n'est pas philosophique. Ça peut être artistique, oui, l'artiste pense ce qu'il pourrait faire, mais le philosophe pense ce qui est. Évidemment, hein, c'est pour ça qu'il y a quelque chose de très important, c'est redécouvrir le jugement d'existence. Mais ça, hein, j'y reviendrai à propos du lien que Aristote fait entre la sagesse philosophique, donc la contemplation, et la métaphysique de l'être. On verra ça demain matin, donc je ne développe pas plus pour le moment. Lorsque vous évoquez la philosophie européenne et la philosophie grecque, vous ne parlez pas de Heidegger. Oui, je ne peux pas parler de tout le monde. Heidegger, dans quel sens se situe-t-il par rapport à votre exposé ? Il a voulu dépasser la philosophie hegelienne. Et comme beaucoup de philosophes contemporains, il cherche à revenir au grec pour dépasser l'emprise de la dialectique hegelienne. C'est présent chez Merleau-Ponty, c'est présent chez Heidegger, c'est présent chez beaucoup. Est-ce que sa démarche est vraie ? Après, c'est encore autre chose et je ne peux pas tout développer. Parleriez-vous en termes de contemplation de l'être chez Heidegger ? Je ne crois pas, mais on tâchera de l'évoquer. Vous affirmez que l'intelligence est faite pour la vérité. Oui. Or, la grande vérité proclamée, c'est justement l'absence totale de vérité. Il y a un saucisme là-dedans. J'espère que vous l'avez dépisté vous-même. Je vais y revenir. Même en science, la vérité n'est plus que relative à une époque donnée, alors en métaphysique, point de suspension. Pouvez-vous donner des directions sur quoi Votre pensée se fonde pour affirmer un être qui est la vérité, voire une personne. Ça, je ne peux pas tout. Vous voyez, je vous ai dit tout à l'heure qu'il y avait des présupposés, hein, qui vont s'éclairer au fur et à mesure. Donc, vous voyez, si je prends ça maintenant, je ne peux pas avancer. Donc, ça va s'éclairer aussi au fur et à mesure. Alors, simplement, vous voyez, je vous souligne juste le sophisme. Hein. La grande vérité proclamée est justement l'absence totale de vérité. Vous vous contredites dans les termes. Vous vous présentez comme une vérité qu'il n'y a pas de vérité. Donc, vous pouvez plus que vous taire. Ce que je dis, je pense qu'il n'y a pas de vérité, et je le présente comme une vérité, donc taisez-vous, ce qui n'est pas de vérité. C'est la démonstration par l'absurde. Et c'est celle que fait Aristote dans la métaphysique au livre Gamma. Il dit, celui qui refuse d'affirmer la vérité ne peut plus parler puisqu'il présente ça comme une vérité. C'est pour montrer que le scepticisme n'a pas de sens en philosophie. C'est le refus de la pensée, en fait, le scepticisme. Dire qu'il n'y a pas de vérité, si je présente comme une vérité, oui, c'est contradictoire dans les termes. Ça montre le rôle du jugement d'existence. Et c'est comme ça qu'Aristote démontre l'axiome de non-contradiction, dont il dit que c'est l'axiome fondamental de toute la pensée. Je ne peux pas dire en même temps et sous le même rapport ceci est et ceci n'est pas. Bon, ça, c'est fondamental. Et c'est la conséquence, justement, en critique. L'axiome, c'est d'ordre critique. C'est la conséquence en critique du jugement d'existence ceci est. Si j'affirme ceci est, en comprenant que c'est présent dans toutes mes expériences, et quand je vous parle, ça implique le jugement d'existence, je parle à des personnes. Je ne parle pas à des fantômes. Je ne fais pas un cours virtuel. Même si c'est très à la mode. Non, il n'y a pas de philosophie du virtuel. Si ce n'est de ce qui est possible relativement à l'être, mais c'est toujours second. Le possible en métaphysique n'est jamais premier. Il est relatif à ce qui est. C'est pour ça que là, il y a quelque chose d'absolument essentiel du côté de la recherche de la vérité. Et je souligne, oui, c'est vraiment important, vous voyez que c'est ça, je dirais, redécouvrir la vie de notre intelligence. Et c'est présent dans toutes nos expériences. Vous ne le mettez pas en doute quand vous parlez à quelqu'un que vous rencontrez. Dès que je parle avec quelqu'un, si vous commencez à dire, au fond, je me demande si tu existes vraiment, alors taisez-vous surtout, vous voyez, parce que, vous voyez, il n'y a plus aucun vrai contact possible. C'est là qu'on voit voyez, comment la philosophie qui met le primat du doute, le primat de la négation, c'est une philosophie qui est une théorie, mais qui n'est pas en contact avec la vie, elle ne peut pas être une sagesse. Et c'est ça toujours qui me frappe, c'est un idéaliste. Il a un discours qui se tient très bien. Il fait une conférence, et puis il sort de la conférence, il vit tout à fait autre chose que ce qu'il vient vous enseigner. Ça montre que sa philosophie n'est pas une sagesse. Parce que si c'est une sagesse, il parle d'une vérité dont il vit et dont il sait qu'elle est une vérité pour l'homme. Pour ça, j'ai parlé tout à l'heure du lien entre vérité et finalité. Et au fond, on a d'autorité comme philosophe pour enseigner que si on cherche une sagesse et que si on parle d'une vérité pour l'homme. Sinon, vous n'avez qu'à vous taire, parce que vous faites un beau discours sur vos opinions, c'est très bien. Un système est une opinion. C'est pour ça, vous voyez, la philosophie réaliste n'est pas un système. C'est une recherche de la finalité de l'homme. Alors bien sûr, celui qui enseigne, il a toujours à progresser. Il y a toujours, quand on enseigne, des lieux où on va trop vite. Bon, ben, on le sait, mais on se corrige incessamment, on progresse tout le temps. Et le père Philippe ne cesse de nous dire, lui qui enseigne depuis 60 ans, qu'il découvre encore des choses aujourd'hui, qu'il y a des choses qu'il corrige par rapport à ce qu'il enseignait encore il y a 5 ans. Et ça, c'est la démarche philosophique. Vous voyez, donc là, il y a quelque chose de très très important à saisir. Je parlais tout à l'heure de discipline philosophique. Exigence de recherche de vérité. Bon, c'est ça que je veux dire. Je cherche à connaître ce qui est. Ça implique, oui, que vraiment l'intelligence soit faite pour connaître la vérité, ce qui est. Donc, vous voyez, quand je dis l'intelligence est faite pour la vérité, ça repose sur quoi? Sur ce réalisme très simple que dans toute expérience humaine, je suis face à une réalité qui existe et que je n'ai pas pensée, que je n'ai pas faite. La réalité existante n'est pas le fruit de ma pensée. L'ami, la personne que j'aime, n'est pas le fruit de mon amour. Ce n'est pas parce que j'aime quelqu'un que cette personne est bonne, non. J'aime quelqu'un parce que cette personne a une bonté qui me devance, qui me dépasse. Ainsi de suite. Vous voyez, donc, on le verra progressivement. Mais je crois que ça, c'est vraiment important et c'est au cœur de la démarche aristotélicienne. Alors, je voudrais, avant cela, je vous ai dit tout à l'heure qu'on regarde quelques aspects de cette découverte de Platon sur l'importance de la théoria pour l'homme. Alors, vous voyez, encore une fois, c'est quelque chose de très vaste, donc c'est difficile de vous le présenter de manière aussi exact et vrai que possible, mais j'essaye de le faire. Alors vous voyez, la première chose qui est très frappant, déjà, c'est de montrer l'importance de Platon. Du point de vue de l'histoire de la philosophie, c'est quelque chose de capital. D'une part, vous voyez, parce qu'en Grèce, c'est quand même la première grande synthèse philosophique. Alors c'est là qu'on va évoquer le problème des présocratiques. Aussi, parce qu'il joue un rôle dans l'histoire de la pensée occidentale qui est absolument fondamental. Et tant en philosophie, Aristote ne peut se comprendre pleinement que face à Platon. Il y a des quantités de choses d'Aristote que l'on saisit, qu'il précise en réaction contre ce qu'il a reçu de Platon. Donc vous savez bien, du côté des dates, Socrate a été le maître de Platon. Platon a été à l'école de Socrate pendant 12 ans, 11 ou 12 ans. Socrate est mort en 399 avant Jésus-Christ. Et puis Platon a été le maître d'Aristote. Aristote a été disciple de Platon pendant 20 ans. C'est quelque chose. De 18 ans à 38 ans. 20 ans à l'école de Platon. Alors vous voyez, il y a là quelque chose de très étonnant. C'est au cœur du 5e et du 4e siècle athénien, donc l'apogée d'Athènes. Et en même temps, le début de la décadence. Aristote est déjà dans la période, la fin de l'empire d'Alexandre. On sait bien qu'Aristote a quitté Athènes parce que Alexandre commençait à avoir des revers et que Aristote, à cause d'opinions politiques, risquait d'être condamné comme Socrate. Donc il a préféré fuir Athènes en disant qu'il ne voulait pas laisser commettre un second crime contre la philosophie. Ça suffisait d'avoir tué Socrate, qu'il ne s'agit pas d'en faire un second. Donc il est parti. Et que Socrate est resté. C'est curieux, oui. C'est pas la même réaction. Il faudrait se demander, est-ce que c'est un acte qui touche la sagesse? Alors, chez Platon, vous voyez, ce qui me semble très important, c'est que c'est la première synthèse au point de vue philosophique. Et puis, il a un rôle sur toute l'histoire de la pensée, il est notamment par rapport à Aristote, et aussi quant à la théologie chrétienne. Vous savez bien cette affirmation du père Festugiaire, qui est très intéressante, c'est une phrase un peu lapidaire, comme il aime le faire de temps en temps, mais il a cette affirmation que je trouve assez forte, « Quand les pères de l'Église pensent leur mystique, ils platonisent. » C'est pour dire que, de fait, dans la théologie chrétienne, on a d'abord assumé l'héritage platonicien, ainsi que l'héritage stoïcien. Et enfin, au XIIIe siècle, XIIe, XIIIe siècle, avec saint Thomas notamment, on a assumé la philosophie d'Aristote. Donc on y reviendra à propos de saint Thomas. Ça me semble aussi très important à souligner. C'est pour dire, vous voyez, que la position platonicienne a un rôle du point de vue historique qui est extrêmement important. Il a joué un rôle, et il joue toujours un rôle extrêmement important. Vous voyez, on pourrait dire qu'il y a deux grandes filiations. La philosophie qui est celle de Platon, et puis la philosophie d'Aristote, c'est un peu deux grandes lignes qu'on retrouve dans toute l'histoire de la pensée occidentale. Le réalisme d'Aristote, je ne dis pas l'idéalisme de Platon, parce que ce serait trop schématique, mais l'orientation d'une philosophie platonicienne qui est avant tout orientée vers un primat de l'esprit. On essaiera de bien comprendre. Alors il me semble que quand on aborde le problème de la théoria chez Platon, de la contemplation, je vais revenir sur le sens du mot dans un instant, c'est au cœur de trois grandes questions qui sont celles de la philosophie de Platon et qui me semblent intéressantes pour nous comme philosophes. Première recherche de Platon, c'est de montrer l'importance de la contemplation pour pouvoir saisir une connaissance qui soit vraie. Donc, vous voyez, on retrouve ce qu'on a dit tout à l'heure, la recherche de la vérité. Platon, vous voyez, a souligné à plusieurs reprises qu'il a été très frappé par la position d'Héraclite. La position d'Héraclite qui consiste à dire il y a tout change tout le temps, il n'y a donc pas de réalité sur laquelle je puisse m'appuyer. Et je vous rencontre aujourd'hui, vous n'êtes plus le même qu'hier, vous avez changé. Vous avez vieilli. Parce que quand même, vous étiez tellement charmant hier, mais aujourd'hui, vraiment. Et tout change, pantareille, Héraclite. Et Platon souligne dans le Cratyle combien pour lui la fréquentation de la position d'Héraclite l'a amené à penser que si on voulait une connaissance vraie, il fallait découvrir un monde qui soit d'une stabilité absolue. Et la vérité suppose une réalité qui ne change pas. Parce que oui, si vous n'êtes plus le même qu'hier, où est-ce que vous êtes vrai? C'était hier ou c'est aujourd'hui? Et si vous n'êtes que dans un devenir, que dans une succession, alors ça, c'est le monde physique. Le monde physique, tel que nous le voyons, il est changeant. Tout change. Oui, on est dans l'expérience du devenir. Donc l'interrogation de Platon, il s'agit de trouver une connaissance vraie. Donc existe-t-il une réalité qui soit au-delà du devenir et qui permette de fonder une connaissance vraie. Donc vous voyez, là c'est une exigence qui est ce qu'on appelle celle de la science. La science, c'est une connaissance qui soit une connaissance du nécessaire, à la différence du contingent qui change constamment. Et c'est une distinction chez les Grecs que Platon met en pleine lumière et qui me semble très importante à souligner. Sur quoi peut-on s'appuyer pour connaître quelque chose qui soit vrai, c'est-à-dire qui demeure? Je vais y revenir tout à l'heure. Deuxième aspect, deuxième grand axe, à mon avis, qui me semble très important. Vous voyez, donc vous voyez, je souligne, parce que je vous ai dit tout à l'heure, le but, c'est qu'on se pose quelques questions philosophiques. Quel rapport y a-t-il entre la contemplation et la découverte d'une vérité nécessaire, stable, qui demeure? Vous voyez, et c'est en même temps très dangereux, ça, vous voyez. C'est ce qu'on reproche souvent à la philosophie grecque, et même à une certaine théologie qu'on a mal comprise, de dire, oui, il y a un monde immuable, Dieu, donc le monde de Dieu, c'est un monde qui ne change pas, ce qui est vrai, Dieu ne change pas, mais c'est donc un être totalement indifférent au monde, qui est étranger à l'univers, vous voyez. Il y a le ciel des idées fixes, il y a quelques réalités stables, des essences éternelles, on contemple ces essences, mais ça n'a rien à voir avec le monde que nous vivons. Et par exemple, c'est ce que dit textuellement Hans Küng dans l'incarnation de Dieu. Il dit, le Dieu grec qui est un Dieu dans une sphère immobile n'a rien à voir avec notre monde, donc c'est contraire au Dieu de l'incarnation, Dieu qui s'est fait homme et qui vit notre vie. Oui, c'est la question est posée comme ça, oui. Oui, qu'est-ce que c'est, oui. Est-ce que la contemplation philosophique, c'est la contemplation d'une idée? Est-ce que la contemplation est quelque chose qui demeure de manière stable? Quel rapport y a-t-il entre un Dieu qui existerait, qui serait au-delà du devenir, et le monde qui change? Est-ce qu'il y a une relation entre les deux? C'est un problème très très important. Oui, on l'entendait dans la lecture ce midi. Le problème du gouvernement, de la providence. Est-ce que Dieu, dans sa providence, se sert des causes secondes? Est-ce qu'il y a une relation? Ou bien est-ce qu'il y a Dieu dans sa sphère, nous dans la nôtre? C'est le problème. Et ça, c'est le problème posé par Platon. Est-ce qu'il y a un monde divin séparé du monde sensible? Quel rapport y a-t-il entre les deux? Et est-ce que contempler, c'est contempler une vérité très belle en soi, mais qui n'est qu'à rien du tout sur la réalité? Comment la contemplation d'un monde stable, ce qui est le monde platonicien, pourrait-elle nous éclairer sur ce que nous avons à vivre? Et Aristote lui-même a posé la question comme ça. À quoi servirait la découverte d'un bien en soi idéal pour la conduite de notre vie? À rien du tout, c'est un exemple, c'est une idée. Est-ce qu'autrement dit, je pose la question comme ça, est-ce que quand Platon parle de la découverte d'une vérité nécessaire, est-ce que cette contemplation, c'est la contemplation d'une idée? Est-ce que contempler Dieu, c'est contempler une idée, très belle en soi? Ou bien est-ce que c'est contempler une personne? Et qu'est-ce que ça veut dire? Et bien sûr, le problème n'est pas posé comme cela par Platon, mais c'est ça qui est l'enjeu derrière, vous voyez? Et c'est une question très très importante. Est-ce que la contemplation philosophique, c'est une contemplation comme une contemplation mathématique, abstraite, d'une idée? Deuxième grand axe qui me semble très important et qu'on voit chez Platon dans la République comme dans les lois, c'est le rapport entre une vérité sur Dieu et le culte religieux. Donc oui, la religion. Et ça, c'est le problème qui est déjà posé par Socrate. La religion de la cité et la vérité sur Dieu. Est-ce que pour qu'il y ait un véritable culte à l'égard de Dieu, est-ce qu'une vérité sur Dieu est nécessaire? Et puis-je rendre un culte à quelque chose qui est imaginatif? Et c'est aussi un problème qui est posé aujourd'hui avec une force extraordinaire. Quel lien y a-t-il entre la sagesse philosophique et l'attitude religieuse? Le philosophe qui découvre la sagesse est-il un homme religieux? Donc là, il y a une question très intéressante qui est de poser le rapport entre adoration, qui est l'acte que la créature rend à Dieu, et la contemplation philosophique. Et ça, bien sûr, là, je dépasse un petit peu le cadre de la lettre même de Platon, mais c'est quand même l'enjeu qui est dans sa recherche, Vous savez bien ce qu'il dit au début des lois, hein, qui est son dernier ouvrage, qui est inachevé, et Platon dit, il commence les lois comme ça, « Les premières lois que nous avons à établir dans la cité, ce sont celles qui régissent le culte rendu aux dieux. Car si on touche à cela, on ébranle toute la cité. » Ah, c'est très très significatif. Et il y a bien sûr un lien avec le politique, mais quel est le lien entre l'adoration à l'égard de Dieu et la contemplation philosophique? Est-ce qu'être philosophe pour découvrir la sagesse, ça implique la découverte de l'existence d'un Dieu créateur qui réclame, quand nous le découvrons, de notre part, une attitude volontaire de reconnaissance à son égard qui est l'adoration? Est-ce qu'on peut parler comme philosophe de l'adoration? Et ça, c'est un problème extrêmement actuel. C'est le problème posé par je ne sais combien de philosophes contemporains. Et c'est une des recherches intéressantes de la philosophie moderne, hein, avec Schleiermacher, avec Hegel, avec Kant, hein, la religion et la philosophie. Est-ce qu'on peut faire une philosophie de la religion? Est-ce que ça a un sens de parler d'adoration comme philosophe? Ou bien est-ce que vous dites que la philosophie, c'est uniquement une chose rationnelle, la dimension religieuse, c'est uniquement de la sphère du privé? C'est de la sphère du sentiment pour certains. Oui. Il y a d'un côté, oui, je vous affirme, hein, c'est comme ça que certains le posent, la philosophie, c'est de l'ordre de la connaissance, et puis la religion, c'est de l'ordre d'un sentiment, d'une piété, mais ça n'a rien à voir avec mon intelligence. Oui. Et c'est l'opposition que Hegel relève et qu'il veut supprimer. Là, il a raison, son intention est très intéressante. Il dit que la position kantienne aboutit à ce divorce total entre la religion et la philosophie. La philosophie se ramène par conséquent à la connaissance des choses finies, hein, donc à une anthropologie au fond. Je décris l'homme, je décris la conscience morale, et puis la religion, c'est un sentiment, c'est une piété, sans aucune lumière, sans aucune intelligence. Vous voyez, est-ce que la recherche de la vérité a quelque chose à voir avec l'attitude religieuse? Est-ce qu'elle peut la transformer de l'intérieur? Oui. De quelle manière notre intelligence est-elle présente dans l'attitude religieuse? Je ne parle pas ici de la foi chrétienne, hein, faites attention. Est-ce que la découverte de l'existence d'un Dieu créateur est une affaire qui concerne l'homme? Et si oui, ça intéresse le philosophe. Et c'est pour ça que l'homme est naturellement un être religieux, capable d'adorer celui qui est l'être premier, le créateur de son âme spirituelle. Et je crois, hein, vous y reviendrez avec le père Philippe, si en tout cas il ne l'aborde pas, il faut lui poser la question, c'est un problème très important et à développer. Quel rapport y a-t-il entre adoration et contemplation philosophique? Est-ce que l'adoration est nécessaire à la connaissance philosophique de Dieu? Et si je prends le problème dans l'autre sens, est-ce que la découverte d'une vérité sur Dieu peut transformer mon attitude religieuse? Et au fond, tant que j'adore uniquement par tradition religieuse, je n'adore pas vraiment. Oui, c'est très bon, tant que je n'ai pas encore découvert, mais au point de départ, c'est évident qu'un enfant, il faut l'éduquer à l'attitude religieuse. On ne va pas lui dire, écoute, attends d'avoir lu Aristote, hein, tu vas faire la métaphysique, tu vas voir. Alors, au berceau, on commence. Alors, tous les jours, on lui lit une page d'Aristote, puis on dit comme ça, il saura. Non, pas du tout. On commence par enseigner de manière pratique l'adoration. Mais ça ne suffit pas. Pour qu'elle soit quelque chose qui soit vraiment personnel, cela n'exige-t-il pas que j'ai découvert l'existence d'un Dieu personnel qui est le créateur de mon âme? Et si je pousse jusqu'au bout, c'est pour ça que c'est ce que Perfil vous a dit ce matin est très important, qu'il soit le créateur de l'âme spirituelle de l'ami. C'est par l'amitié que je touche quelque chose d'une présence gratuite du Créateur et du Père, que j'adore. Et c'est pour cela que l'amitié est une voie très directe pour découvrir l'adoration et le sens de la contemplation. Parce que si je sais vraiment ce que c'est qu'aimer une personne, je sais très bien qu'une personne dans son âme spirituelle dépasse complètement et que c'est quelque chose qui me... au fond, quelque chose de gratuit. Le don personnel dans l'amour d'une personne humaine, hein, c'est pas de l'ordre de la passion. Et c'est quelque chose qui me fait saisir tout de suite un absolu, qui me dépasse, qui me renvoie forcément quelqu'un qui est premier. Et ça, c'est quelque chose à chercher. Hein. C'est pas développé par Aristote, mais c'est quelque chose que le père Philippe veut développer avec vous. Donc, vous voyez, posez-vous la question. Mais je pose la question. Hein. Quel rapport y a-t-il entre adoration et... C'est déjà présent chez Platon, cette question.
Et c'est pour ça que vous voyez que là, on ne peut pas ne pas penser qu'il n'a pas été marqué par la mort de Socrate. Vous voyez. Et pour lui, ça a été une question mais lancinante. Vous savez, il a cette phrase dans La République qui est absolument, qui est tellement, j'allais dire, criante de vérité. Hein. Il dit « C'est très grave d'enseigner aux enfants des mensonges sur les dieux, les montrer s'adonnant à la jalousie, à la guerre, à l'adultère, à la discorde, etc. C'est quelque chose qui est monstrueux. Ce qu'on doit enseigner aux enfants quand on commence à leur parler de Dieu, c'est que Dieu est bon. Ah, c'est très impressionnant. Vous voyez, qu'un païen, il dit ça. Il y a une vérité sur Dieu qui est capitale pour notre vie pratique. Dieu est bon. C'est pour ça que vous voyez, quelqu'un comme saint Augustin dit qu'il y a là une disposition à l'évangile. Parce que c'est la philosophie qui cherche la sagesse, si elle découvre une bonté de Dieu, c'est quelque chose qui me dispose de manière merveilleuse à m'ouvrir à la foi, si Dieu le veut. Saint Thomas le dira lui-même. Hein, il dit, pour être sauvé et pour recevoir la foi, il suffit de croire que Dieu existe et qu'il se fait le rémunérateur de ceux qui espèrent en lui. C'est-à-dire de croire que Dieu est bon et qu'il nous gouverne avec amour. Si on a découvert ça comme vérité philosophique, on est tout proche d'accepter de recevoir une conduite de Dieu qui nous dépasse complètement. Et là, c'est un point de contact extrêmement important. Le point de contact entre sagesse philosophique et révélation chrétienne, c'est par le point de vue de la bonté. On y reviendra. Enfin, troisième aspect, qui me semble aussi très important chez Platon, et qu'on... Elles sont numérotées et puis elles ne sont pas toutes considérées comme authentiques, mais la lettre 7 est fameuse et c'est au fond un récit autobiographique. Et il raconte, il dit ceci, hein, que devant l'état de décadence d'Athènes à son époque, il a été amené à penser que la cité ne serait gouvernée dans la justice que si les philosophes deviennent rois ou si les rois deviennent philosophes. Il dit ça. Je crois que c'est faux, mais vous voyez, c'est intéressant à voir. C'est un des grands problèmes de Platon, des grandes questions. Quels sont les rapports entre théoria, donc contemplation, hein, la recherche du philosophe dans ce qu'est l'adultime, et la justice? Ce qui commande toute la politique pour Platon, c'est la justice. La cité doit être ordonnée par la justice. Et la justice, elle ne peut exister dans la cité que si c'est le philosophe qui ordonne la cité sur le modèle du monde idéal qu'il contemple. Alors là, vous voyez, ça pose une question qui est aussi très délicate, qui n'est pas du tout facile à résoudre. Quels sont les rapports entre contemplation, recherche de la vérité pour la sagesse, et vie politique? Est-ce qu'il y a un rapport entre contemplation et politique? Et là, Platon, vous voyez, a une position extrêmement caractéristique. Pour lui, le philosophe doit d'abord quitter la cité, mais il doit y revenir. Ah oui, c'est une question très très importante. Est-ce que la sagesse philosophique, est-ce que la contemplation philosophique a immédiatement un rôle politique? C'est une question très importante, qui n'est pas si facile à résoudre, hein, et qu'on essaiera de voir, notamment en regardant aussi Aristote. Ça pose la question des rapports entre sagesse et prudence. Chose que Platon ne distingue pas complètement. Hein, donc on y reviendra. Ah oui, au fond, à travers ces trois aspects, hein, vous voyez, la recherche de la vérité, l'attitude religieuse, l'aspect communautaire et politique, hein, comment résoudre l'injustice, comment établir la justice dans la cité, Platon prétend aborder ces trois problèmes, hein, à travers une recherche qui se résout, au fond, qui se réduit au problème de la connaissance. Pour lui, c'est la théoria, la contemplation, qui doit éclairer tous ces problèmes-là. On va voir pourquoi et de quelle manière. Alors, D'abord, hein, pour combien, on le voit bien, vous voyez, il faut d'abord voir justement quel est, je dirais, c'est Platon qui emploie le premier de manière précise, hein, ce mot de théoria. Donc déjà un petit aspect sur le mot qu'il emploie, et ensuite pour voir comment ça s'éclaire à travers les trois aspects que je viens de vous dire. Le mot théoria en grec, hein, il vient, vous voyez, c'est, alors, vous voyez, il y a une fausse étymologie, hein, et puis il y en a une vraie. La fausse étymologie, il faut souligner qu'elle vient de l'école aristotélicienne, pas d'Aristote lui-même, mais de certains disciples qui ont des imaginations fertiles. Alors on a dit, certains ont dit, théoria, c'est théos, Dieu, et orao, voir, voir Dieu. Cette étymologie est fausse. Parce que ça vient en fait de théa et de aussi orao, mais les deux mots veulent dire la même chose, voir, considérer, regarder. La théoria, au sens premier, tel que dans son origine du mot, hein, ça fait tout de suite référence à l'aspect de la vision, de la vue. Ah oui, c'est très très intéressant, parce que c'est vraiment Platon qui met ça en pleine lumière le premier, et c'est repris par Aristote, et chez tous les Grecs c'est présent. Dès qu'on parle de contemplation, on parle de vision. Pourquoi prend-on ce langage? Oui, il faudrait demander à un ophtalmologiste ce que c'est que la vision. Très intéressant. Et qu'est-ce que c'est que la sensation de la vision? Et pourquoi est-ce qu'on dit contempler, hein, théorein, qui sera le mot grec, le verbe théorein, c'est contempler. Pourquoi c'est lié au fait de voir? Et là, il y a tout un aspect à faire, oui, à comprendre, qui me semble extrêmement important, sur le sens de la vision et pourquoi on se sert de cette analogie, qu'on retrouvera jusque dans la théologie. Hein, puisqu'on parlera de vision béatifique. On parlera de... On opposera la foi à la vision. Et saint Thomas ira jusqu'à se demander, est-ce qu'on verra Dieu avec nos yeux de chair? Est-ce que la vision béatifique, c'est voir Dieu avec nos yeux, là? Alors que fera-t-on des lunettes? Pauvre ophtalmo, il ne servira plus à rien de la vision béatifique, c'est embêtant. Il est pour cette terre. Ah, et c'est pourquoi je me sers de l'analogie de la... Oui, c'est une analogie, bien sûr. Hein. De même que je vois d'une vision sensible, de même il y a une vision d'ordre spirituel. Pourquoi cette analogie? Oui, c'est un problème très très intéressant. Là. Oui, le premier texte qui me semble important de vous évoquer, hein, c'est le fameux texte de Platon, je ne vais pas lire tout entier, mais l'allégorie de la caverne, qui est tout entier construit sur la vision, et qui est un passage magnifique sur ce que c'est que la contemplation pour Platon. Et vous savez, on fait de manière classique, hein, on oppose de manière classique, hein, la vision et l'ouïe. Vous savez bien ce qu'on dira en théologie, hein, c'est dans saint Paul, fides ex auditu, hein. La foi vient de ce qu'on entend. C'est-à-dire que la vision, c'est lié à l'évidence. Oui. L'ouïe qui me fait croire, c'est que quelqu'un me dit quelque chose d'une chose qu'il a vue et que moi je n'ai pas vue. Donc, entendre et croire ce qui m'est dit, c'est adhérer à travers quelqu'un qui, lui, a vu et que moi je n'ai pas vu. Fides, hein, la foi, croire ce qui m'est dit, vient de ce que j'entends. Quand je le vois, je n'ai pas besoin de croire, c'est évident. Et c'est très intéressant comme expérience toute simple, ça. Alors vous savez bien, on a fait, hein, ça c'est les sociologues qui disent ça, alors je crois que faut faire attention, parce que alors, ils disent, hein, oui, il y a des peuples de la vision, alors vous voyez, on dit les Grecs sont des gens de la vision, les Sémites sont des gens de l'ouïe. C'est un peu schématique. Mais c'est vrai qu'il y a des génies différents, vous voyez. Ce serait intéressant, vous voyez, de voir dans des cultures, hein, est-ce qu'il y a tel ou tel art qui est plus présent dans tel pays, hein. Est-ce que c'est plus la musique? Est-ce que c'est plus la peinture? Est-ce que c'est plus la danse, vous voyez. Et c'est des sens différents, hein. Là, il y aurait beaucoup à dire en servant de la connaissance artistique, hein. Est-ce qu'il y a une contemplation artistique? Très intéressant. Ah oui, l'ouïe, hein, c'est lié au sens de la vie, au sens de la... Je veux dire, c'est lié à la foi, hein, c'est le croire, hein, c'est lié à la parole... La vision liée à la présence immédiate de l'objet, à l'évidence. Donc, vous voyez, on va opposer cela. Pourquoi la vision a-t-elle ce caractère qui fait que je m'en sers pour évoquer quelque chose qui relève de l'intelligence?
ce sont tout le temps les analogies que prennent les Grecs. Alors, premier texte, hein, je vous lis simplement le début, c'est un texte quand même très célèbre, je pense que certains d'entre vous connaissent, mais qui me semble important hein, d'évoquer rapidement. Donc c'est dans la République, au livre 7. Maintenant, représente-toi notre nature selon qu'elle est ou n'est pas éclairée par l'éducation, d'après le tableau que voici. Figure-toi des hommes dans une demeure souterraine en forme de caverne, dont l'entrée ouverte à la lumière s'étend sur toute la longueur de la façade. Ils sont là depuis leur enfance, les jambes et le cou pris dans des chaînes, en sorte qu'ils ne peuvent bouger de place ni voir ailleurs que devant eux, car les liens les empêchent de tourner la tête. La lumière d'un feu allumé au loin sur une hauteur brille derrière eux. Entre le feu et les prisonniers, il y a une route élevée. Le long de cette route, figure-toi un petit mur, pareil aux cloisons que les montreurs de marionnettes dressent entre eux et le public, et au-dessus desquels ils font voir leur prestige. C'est tout à fait Platon, ils dressent un tableau, une allégorie extraordinaire. Donc il y a des hommes hein, tournés vers le fond de la caverne, ils ne peuvent pas voir autre chose que ce qui est le mur qui est devant eux. Et derrière, l'ouverture de la caverne, avec un feu qui brille au lointain, hein, et qui va projeter hein, des ombres sur le fond de la caverne. Et, très bien, vous êtes un spectacle de marionnettes. Pour Platon, telle est notre vie. Et, voilà. Figure-toi maintenant le long de ce petit mur des hommes portant des ustensiles de toutes sortes, qui dépassent la hauteur du mur, et des figures d'hommes et d'animaux en pierre, en bois, de toutes sortes de formes. Et naturellement, parmi ces porteurs qui défilent, les uns parlent, les autres ne disent rien. Vous voyez, la vision et l'audition. Voilà, dit-il, un étrange tableau et d'étranges prisonniers. Ils nous ressemblent, répondis-je. Et d'abord, penses-tu que dans cette situation, ils aient vu d'eux-mêmes et de leurs voisins autre chose que les ombres projetées par le feu sur la partie de la caverne qui leur fait face? Peut-il en être autrement, dit-il, s'ils sont contraints toute leur vie de rester la tête immobile? Et des objets qui défilent, n'en est-il pas de même, sans contredit? Alors, etc. Examine maintenant comment ils réagiraient si on les délivrait de leur chaîne et qu'on les guérit de leur ignorance. Et si les choses se passaient naturellement comme il suit. Qu'on détache un de ces prisonniers, qu'on le force à se dresser soudain, à tourner le cou, à marcher, à lever les yeux vers la lumière, tous ces mouvements le feront souffrir. Et l'éblouissement l'empêchera de regarder les objets dont il voyait les ombres tout à l'heure. Je te demande ce qu'il pourra répondre si on lui dit que tout à l'heure, il ne voyait que des riens sans consistance, mais que maintenant, plus près de la réalité et tourné vers des objets plus réels, il voit plus juste, etc. Alors, vous voyez, donc Platon considère, hein, quel est le rôle de la philosophie? Le rôle de la philosophie, c'est de nous détourner des ombres pour nous tourner vers les réalités véritables. Premier aspect de ce que c'est pour lui que l'attraction et la recherche de la connaissance contemplative. Les ombres, ce sont les réalités dont nous avons l'expérience. Quand je vous vois, pour Platon, d'une connaissance sensible, je ne vois qu'une apparence. Vous êtes un être mensonger. Vous ne le saviez pas, je vous l'apprends. La réalité sensible est pour Platon mensongère. Et c'est pour ça qu'il dit que philosopher, la philosophie, c'est se tourner vers le to on aleton, l'être véritable, oui, aletheia, hein, la vérité. To on aleton, hein, l'être véritable. Ça, c'est la forme en soi pour lui. Le ciel des idées, le ciel des formes. Tandis que la réalité sensible, sur laquelle porte l'expérience quotidienne, singulière, elle ne me fait voir qu'un être, une réalité, une apparence, une ombre. Et ça, c'est très très important. Vous voyez, pour lui, bien sûr, c'est lié hein, à l'âme et au corps. L'âme et le corps, pour Platon, sont dans un dualisme. L'âme est faite pour contempler les formes en soi, pour découvrir l'être véritable. Tandis que l'homme singulier, dont j'ai l'expérience, a quelque chose qui est une apparence, qui est mensonger. Ah oui, comme toujours, il y a quelque chose de juste. Et quelque chose de juste, pourquoi ? Parce qu'aucun d'entre vous ne peut dire « Regardez-moi, je suis l'homme. » Non, je suis un homme. Et en tant que je suis un homme individué, j'ai certaines qualités, mais je ne les ai pas toutes. Il y a un seul homme réel dont on a pu dire en toute vérité « Voici l'homme », c'est Jésus. C'est pour ça que quand Pilate dit ça, c'est une parole extrêmement forte. C'est pas seulement « Voici l'homme dont on cause hein. ». Voici l'homme, parce que c'est Dieu homme. J'allais dire, l'homme en soi de Platon, il est infiniment dépassé, là, oui. Mais c'est ça que cherche Platon, oui. Platon dit, au fond, aucune réalité dont j'ai l'expérience ne peut me satisfaire. Elles sont toutes limitées, ça m'est insupportable. Il faut donc que je me détourne de ce monde mensonger, trompeur, d'apparence, pour enfin découvrir le monde des formes en soi qui lui est vrai. Mais qui donne, comme j'ai dit tout à l'heure, une stabilité à la connaissance. Parce que tous les hommes que je regarde, ils sont tous limités, donc ils ne me montrent pas vraiment ce qu'est la vérité. Vous voyez, il faut retenir ça, parce que je vous montrerai demain la critique qu'en fait Aristote de ça. Mais vous voyez, c'est extrêmement fort. C'est très intéressant comme recherche. C'est le passage du singulier à l'universel. Comme c'est séduisant d'être dans l'universel. L'homme en soi ne dérange personne. Tandis que mon voisin à côté, il fait du raffut. Il me gêne, il me limite. Et l'enfer, c'est l'autre. Sartre est un platonicien caché. Parce que pour dire que l'enfer, c'est l'autre, c'est la même attitude. C'est que l'expérience me dérange. C'est tellement mieux la cohérence d'un monde intelligible en soi. C'est tellement intéressant. Et donc, vous voyez, l'opposition. C'est pour ça que Platon va souligner que la recherche de la contemplation, c'est se détourner des apparences pour chercher l'être véritable. On continuera, parce qu'on va voir pour Platon, qu'est-ce qui est le soleil de ce monde intelligible ce dont il a parlé tout à l'heure, vous rappelez. Il a dit, il y a un mur, il y a des réalités qui défilent devant le mur, et projetées sur le fond de la caverne par la lumière qui est de l'autre côté, qui est très vive, un feu ou le soleil, ça projette des ombres. Donc, qu'est-ce qui est cause de cette lumière ? Pour lui, c'est le bien en soi. Il dira dans La République, au livre 6, donc dans le livre qui précède, il dit ceci, « Le bien en soi, c'est le soleil du monde intelligible. C'est lui qui éclaire toutes les idées. » Alors, Glaucon, qui discute avec Socrate, dit « Mais écoute, mon cher Socrate, c'est très bien, mais ça n'apprend pas grand-chose, c'est un langage métaphorique. De même que le soleil éclaire les réalités visibles, de même le bien en soi éclaire les idées intelligibles. » Alors Socrate lui répond, écoute, faut que tu t'en contentes, je ne peux pas te dire plus pour le moment, t'as qu'à te figurer que c'est comme ça, puis c'est tout. Et c'est très intéressant. C'est pourquoi les interprètes platoniciens disent toujours, mais est-ce que le bien en soi pour Platon, est-ce que c'est Dieu ? Quel est le rapport entre le bien en soi et les idées pour Platon ? Et saint Augustin s'est reposé le problème. Vous voyez, là il y a un problème extrêmement intéressant. Pour Platon, qu'est-ce qu'on contemple vraiment ? Est-ce qu'on contemple uniquement des idées ou est-ce qu'on dépasse pour découvrir l'existence d'une réalité première qui est source de ce monde spirituel ? C'est très délicat, oui. Alors oui, pour lui, il y a un abîme, une séparation entre le monde sensible et le monde intelligible, entre le monde de l'expérience, des apparences et le monde de la philosophie, entre notre âme et notre corps. C'est pour ça qu'on reviendra là-dessus demain. Pour Platon, si je suis fait pour la contemplation, c'est parce que pour lui, mon âme a été séparée de mon... elle a existé séparée du corps. Donc l'âme, pour Platon, est naturellement contemplative. Et le fait qu'elle soit liée à un corps, c'est l'état de cet homme enchaîné dans la caverne. Je suis comme dans un état de peine par le corps. L'expérience sensible pour Platon, le sensible, c'est une peine pour mon âme qui est faite pour la contemplation. Oui, est-ce que c'est vrai ? Oui, tout ça, c'est pour vous poser des questions. Est-ce que contempler, c'est quitter l'expérience ? Est-ce que contempler, c'est quitter l'expérience sensible ? Est-ce que contempler, c'est supprimer le corps pour rendre ses droits à l'âme ? C'est une question très très importante. Est-ce que la contemplation philosophique, c'est une abstraction de la réalité ? Ou bien non ? Mais forcément, vous voyez, c'est des questions qui sont extrêmement vastes, qui mettent en jeu toute la philosophie, mais qui sont très intéressantes quand même, et très importantes. Est-ce que contempler comme philosophe, c'est contempler un système en soi ?
ou bien est-ce que c'est contempler une réalité qui, parce qu'elle est première, ordonne toutes les réalités dont j'ai l'expérience? Qu'est-ce que c'est qu'un jugement de sagesse pour un philosophe? Est-ce que c'est une abstraction? Vous savez, on entend de temps en temps ces réflexions. Hein. Oh oui, les philosophes, c'est des gens qui ont des grandes théories qui n'ont rien à voir avec la réalité. Est-ce que c'est vrai, ça? Peut-être pour un platonicien. Mais est-ce que c'est vrai de la véritable contemplation philosophique? Donc vous voyez, voilà un problème qui me semble capital. Hein. Est-ce qu'il y a une séparation entre le monde intelligible et le monde sensible? Est-ce qu'il y a un dualisme entre l'âme et le corps? Est-ce que la contemplation, c'est la nature de l'âme? Ou bien est-ce que c'est une finalité personnelle qu'on doit découvrir? Et là, c'est la grande discussion entre Platon et Aristote. Platon et Aristote sont d'accord tous les deux pour dire que l'homme est fait pour la contemplation. Mais pour Platon, c'est retrouver un état perdu. Pour Aristote, c'est découvrir un bien fin de ma personne, qui n'est donc pas du tout abstrait du sensible. Et on le touchera demain, mais c'est très très important. Qu'est-ce que c'est que découvrir la contemplation philosophique? Est-ce que c'est retrouver quelque chose de perdu, ce qui revient très à la mode aujourd'hui? Vous savez, on estime qu'il y a, je crois, 35% des Français qui croient en la réincarnation. C'est assez significatif. Est-ce que ça a un sens? Au fond, est-ce que j'ai été une âme séparée? Puis mon corps, c'est une chose que je subis, mais dont je vais me débarrasser vite fait, c'est une enveloppe. Je vais me libérer enfin. À moins que je me réincarne. Vous savez bien que le sort que Platon réserve à celui qui n'a pas vraiment été philosophe. Hein. L'homme qui n'a pas cherché la philosophie se réincarne dans une femme. Et la femme qui ne cherche pas à se purifier par la contemplation devient un animal. Oui, c'est pas drôle. Et il y a des dégradations successives. Platon est... Et si vous aimez Platon, il ne faut pas être féministe en même temps. Hein. C'est très très important. Ouais. Mais, alors, est-ce que c'est vrai ça? Est-ce que contempler, c'est retrouver un état perdu? Mais là, il y a un problème, hein, sur lequel je reviendrai demain, qui me semble très crucial, qui n'est pas commode. Peut-être il y en a pour qui c'est un peu difficile à saisir, de voir l'enjeu, mais je vous pose la question. Hein. Est-ce que contempler, c'est un rêve? Est-ce que c'est retrouver quelque chose, un monde idéal perdu, qui est une belle théorie en soi? Ou bien c'est quelque chose qui finalise ma vie comme personne? Et il en va du statut de la philosophie. Hein. Est-ce qu'elle est vraiment une sagesse qui éclaire la vie de l'homme? Ou bien est-ce qu'elle est un système cohérent en soi qui repose sur un mythe? C'est très intéressant comme débat. Et c'est le débat Platon et Aristote. Un peu schématisé, vous voyez, mais je crois que c'est quand même ça l'enjeu. Pour Platon, contempler, c'est retrouver un fondement qui a été perdu. Platon, c'est un philosophe du fondement. Il veut retrouver quelque chose qui est enfoui et que j'ai perdu. Il faut dégager ce qui s'est accumulé. Hein, c'est pour ça que c'est tellement une nostalgie. J'ai été ça, mais je l'ai perdu. Comment le retrouver? Il est très nostalgique, Platon. Pour Aristote, il n'y a rien de nostalgique. Contempler, c'est découvrir une fin personnelle. Et la finalité n'est pas nostalgique. C'est ce qu'il y a de plus réaliste. Et donc, est-ce que contempler, c'est un idéal ou est-ce que c'est une fin? Un bien fin? Est-ce que je contemple une réalité ou un idéal? Pour Platon, je contemple un monde idéal qui me détourne d'un monde d'apparence qui est fatigant parce qu'il est changeant. C'est pour ça, oui, Platon est un homme qui rêve, hein, beaucoup. C'est pour ça qu'il y a tant de mythes dans sa philosophie. Bien sûr, ça a beaucoup de noblesse, parce que ce ne sont pas des mythes de seconde zone, c'est des choses très profondes. Mais, vous voyez, est-ce que c'est juste? Alors, je reviendrai, vous voyez, l'importance du sens de la vision, hein, dans cette première approche de Platon. Je vous lirai demain, pour commencer, un petit texte d'Aristote aussi sur le sens de la vision, qui est très éclairant. C'est le cas de le dire. Hein. Puis après, on verra ces dimensions de la contemplation platonicienne, puis dans la première heure. Hein, puis ensuite, j'aborderai tout de suite Aristote. Qu'est-ce que c'est que la sagesse et la contemplation pour lui ?